Petite voix, laisse-nous emprunter ton nom, toi qui jamais ne nous quittes ni ne doutes et nous plonges dans l'insomnie vagabonde.
Guide devant la complexité du monde et boussole dans les choix de chaque route, tu restes et demeures un fidèle compagnon.
Bonsoir à tous, c'est parti pour le podcast du mois de novembre 2022, avant-dernier podcast avant la fin de notre engagement. On verra ce qu'on en fait par la suite. Alors, c'est parti avec les fiertés du mois de novembre. Léni, tu te lances ?
Ouais, et ben je prends la main. Le premier succès dont je veux parler, c'est le potager collectif qu'on a lancé ce mois-ci. On a fait deux événements. On les fait toutes les deux semaines, là. Donc, on a eu deux événements avec à peu près une douzaine de personnes à chaque événement. Hyper intéressant parce que plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas, des gens super détendus, hyper contents d'être là, hyper volontaires. On a créé des composteurs, on a créé ce qu'il fallait pour accueillir les tonnes d'eau, pour recueillir l'eau de pluie, etc. On a commencé à retourner un peu la terre, donc voilà, c'est hyper cool. Il y a eu un petit article dans Ouest France qui est paru, qui donne un peu de visibilité et qui donne un peu envie.
Moi, je trouve ça assez sympa aussi vis-à-vis des enfants, parce que Kéo et Tim, ils étaient de la partie sur les matinées, et puis Luc est allé à la deuxième aussi, et ils sont revenus, voilà. Je crois que le premier jour, ils traînaient un peu les pieds, et puis ils sont revenus enchantés, donc voilà, c'est vraiment chouette.
Quand je suis parti du Moulin Neuf, là, donc là où on a le potager collectif, ils m'ont dit « Oh mais papa, c'était trop bien !» Mais jamais t'y vas sans nous, hein. T'y vas pas sans nous, hein. Tu nous dis, hein. Quand t'y vas, on vient avec toi et tout, quoi. Donc je sais pas ce qui leur plaît à ce point, je pense que c'est parce qu'on bricole, on est hyper détendu, on est en pleine... Enfin, c'est un cadre fantastique aussi, hein. C'est magnifique. Et puis je sais pas, ils doivent apprendre des trucs, ils doivent être contents, donc c'est super chouette. Et Luc, il a eu un peu froid le dernier coup quand même. Mais on s'est occupé de lui, on lui a donné une petite tisane chaude, tout le monde était bien. Je pense que c'est hyper intéressant aussi qu'il y ait des enfants dans ce jardin collectif. Ça donne de la vie un peu plus encore. Donc voilà.
Moi j'avais mis mois de novembre oblige, hein, c'est la création des calendriers de l'Avent. Voilà, moi j'aime particulièrement ça. Et puis cette année je suis partie sur deux versions différentes. Donc. Un pour les enfants, enfin pour mes enfants d'abord, mais après je l'envoyais aux copines et puis je l'envoyais à mes filleules aussi. L'idée c'est de partir à la découverte des pays d'Europe. Donc déjà on va se balader sur une carte et on va placer les pays d'Europe, d'aller voir un petit peu dans les traditions ce qu'il y a et ce qui est pareil que chez nous, ce qui nous différencie aussi. Et puis j'avais envie pour ce calendrier de l'Avent que ça soit pas... des bonbons, des cadeaux, enfin voilà, ça fait déjà quelques années que je milite anti ça, enfin voilà, pour arriver à quelque chose qui a plus de sens. Et là l'idée c'est d'arriver à vivre chaque journée un peu un bout de tradition du pays. Alors un peu, c'est un peu tiré par les cheveux des fois, mais voilà, j'ai essayé de trouver à chaque fois. Notamment, je me suis rendu compte que dans les traditions, alors qui sont beaucoup basées quand même sur la religion, mais pas que, il y a beaucoup de temps de qualité en fait à passer avec les gens qu'on aime, beaucoup de temps voilà, centré autour de la musique, le chant, les contes. Enfin, et ouais, c'est assez intéressant de se mettre là-dedans. Donc déjà j'ai appris plein de choses et puis j'ai trouvé ça fun de pouvoir le partager, parce que là j'ai vraiment fait un clé en main où il n'y a plus qu'à appuyer sur le PDF et c'est imprimé, donc voilà, c'est assez sympa. Et puis bah, j'ai bricolé un peu forcément parce que j'ai recustomisé une échelle parce que c'est plus sympa d'avoir un beau visuel aussi pour l'afficher, donc voilà, ça c'est pas encore tout à fait fini, mais je pense que demain ça sera bon. Et puis j'ai fait mon deuxième calendrier de l'Avent pour mes amis mamans aussi. Voilà, c'est la troisième année que je fais ce type de calendrier, et cette année je suis partie sur l'idée de travailler les affirmations positives. Alors ça vient encore des fabuleuses, hein, y a beaucoup de choses qui viennent des fabuleuses, mais voilà, l'idée de de se dire qu'on a de la valeur et que ce qu'on fait a du sens. Enfin, voilà, c'est l'idée de pas de se jeter des fleurs, mais en tout cas de valoriser voilà, ce qui est positif et pour nous aider à avancer. Donc j'espère que ça plaira à la vingtaine de copines à qui j'ai envoyé le support voilà, dans une petite enveloppe qui est arrivée directement au domicile. Donc, voilà, c'est à la fois une fierté, à la fois un peu de care aussi. Enfin voilà, ça mélange un peu tout. T'en as une deuxième, Léni, forcément. Je crois que t'avais une longue liste.
Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de tester le calendrier de l'Avent. On va manger par terre comme en Bulgarie et tout. J'ai commencé à regarder un petit peu. J'ai fait les fautes d'orthographe. Mais en tout cas, ouais, je te remercie en tout cas de faire ça. Eh ben moi, c'est les toilettes sèches. L'idée, c'était de vraiment en faire un lieu qui soit beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus agréable aussi. Donc là, jusqu'à présent, bah, c'était un truc très très rudimentaire, très clairement. Ça faisait le job. Mais très souvent, bah, il n'y avait plus de sûre. Très souvent, c'était le bazar parce que les petits ne pouvaient pas s'en servir de la sûre. Du coup, c'était dégueu. Donc ça ne donne pas très d'envie.
Et puis au démarrage des toilettes sèches, on était reparti de, c'était Mélanie et Adrien qui nous avaient donné leur ancien support, voilà, parce qu'ils étaient montés en gamme, eux, donc on les remercie parce que grâce à eux pendant un an, enfin même un peu plus, un an et demi, on a pu profiter du support. Et puis les bacs à sûre, enfin, ils étaient à ciel ouvert jusqu'à cet été. Et en fait, on s'est rendu compte que les chats s'en servaient comme litière. Donc, du coup, on avait mis un couvercle dessus, ce qui faisait que les petits ne pouvaient plus accéder. Donc, et voilà, il fallait trouver une autre solution.
Ouais, c'est ça. Et donc, là, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est un gros... Bah, déjà de la conception, parce que faut que ça fonctionne. Donc, c'est des plans, c'est tout ça. Donc, ça, c'est des choses que j'aime faire. Mais en tout cas, ça prend quand même du temps et de l'énergie. Et puis après, faire un...
C'est pas très droit. Ce n'est pas très droit.
Ah, bah, c'est clair, les murs, tu commences à 22 en bas, tu es à 27 en haut, tu es là, bah, d'accord. Bref, en tout cas, il y a un gros bac, une grosse réserve pour la sûre avec des petites pentes. On a réfléchi à ça avec Keo et du coup, c'était très ingénieux. Donc c'est assez assez cool. On s'est bien trippé à faire ça. Et puis avec des systèmes d'accroche ergonomiques et faciles pour notamment l'entretien, pour vider ce qui est à vider. Et puis voilà, donc hyper content d'avoir réussi à faire ça sur ce mois-ci.
Du coup, on avait aussi une fierté en commun qu'on avait notée. Alors on avance, je pense que là on est bien bien lancé sur le zéro voiture. En tout cas, on n'a plus le réflexe de prendre la voiture au quotidien. Ça c'est plutôt intéressant. Moi j'ai remarqué ça là depuis quelques semaines. Avant, alors ça me stressait beaucoup que le train ne passe pas ou que le train soit en retard parce que j'allais être en retard au boulot. Et puis, alors déjà depuis la rentrée de septembre, ça m'inquiète un peu moins. Puis alors là, je crois qu'au mois de novembre, il a été 3 fois en retard, mais alors ça m'a pas du tout stressée. Je me suis dit, bon, déjà moi j'arrive à 8h20 et j'ai cours qu'à 9h, donc il y a un petit temps de latence, donc même si le train a 40 minutes de retard, je suis encore à l'heure, donc ça c'est plutôt cool. Et donc j'anticipe un peu mes photocopies pour que tout soit prêt, pour être sûre que même si le train est en retard, je puisse être à l'heure en cours. Et puis je me dis, bah au pire, voilà, mes élèves ils sont un quart d'heure à m'attendre, c'est pas la fin du monde, ça changera pas grand chose pour eux et pour moi. Et alors qu'avant, il y a encore un an, je retournais en vélo à la maison, je reprenais ma voiture pour filer au boulot et pour être sûre d'être à la bonne heure. Donc voilà, je pense que là, j'ai vraiment passé un cap et en fait, je prends ce temps-là plutôt comme du bonus en me disant, bah, c'est cool, j'ai un temps de lecture, d'écriture en plus, au calme. Voilà, la gare de Cuan est assez dans la nature quand même, donc c'est un coin qui est sympa en termes d'attente. Voilà, les bancs étaient un peu frais à 7h30 cette semaine, mais voilà, tout s'est fait quand même. Et puis, je trouve qu'on a voilà, vraiment pris... des habitudes, hein. C'est vrai que maintenant on met la charrette et on se pose pas la question. Voilà, il y a encore à retravailler, je pense, la charrette. Parce que on a pris une fois là, c'était toi, une fois, t'as utilisé la voiture pour aller chercher des planches. Donc voilà, je pense que.
Ouais, c'est ça. En fait, on a cette habitude-là depuis pas mal de temps quand même. C'est juste que très souvent, quand il fallait aller faire le vrac, où il y a du coup, je sais pas combien de kilos.
Entre les bocaux. Et ce qu'il y a dans les bocaux, Oui, il y a beaucoup de kilos.
50, 60 kilos, je sais pas.
Bah ouais, facile, parce que...
Donc quand t'avais des trucs comme ça, bah là, c'était la voiture. Quand t'avais... quoi d'autre, enfin, quand est-ce qu'on utilisait la voiture, quand il fallait aller au magasin de bricolage à Clisson, quand il fallait... voilà, bah là, on prenait la voiture systématiquement. Bah là, du coup, c'est l'inverse. Depuis 2 mois, hein, je pense.
Ouais, je pense.
Ça fait vraiment... peut-être 3 mois, parce que c'est en septembre, ouais. On a vraiment... C'est cet été où on s'est dit, non, mais la bagnole, c'est pas possible, en fait. Ouais. Même si on n'en avait pas un usage excessif, très clairement, on s'est dit, bah non, mais là, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on en vende une, on vous en avait déjà parlé. Et là, en fait, mais tout se fait en vélo, en fait. Là, maintenant... donc, le vrac, j'ai réussi à le faire en sachant que bah, c'est Clisson, et du coup, c'est hyper vallonné. En tout cas, il y a une grosse côte, une côte énorme. Et en fait, bah voilà, ça se fait. Tout va bien, enfin, tu vois, en vrai, tout va bien. Et puis, j'ai acheté un bon vélo aussi pour ça. On a une charrette qui, certes, pourrait être un peu plus optimisée, faite pour ça, quoi, concrètement.
Ouais, moi, c'est ça, ce matin, je suis allée faire les légumes, bah, je suis partie avec Avril, enfin, ouais. Voilà, c'est le poids plume, ça va, ça passe.
Ouais, c'est ça, le poids plume, ça va. Et puis, voilà, il y a un truc que j'ai fait un peu exceptionnellement cette fois-ci, et que je pense que du coup je pourrais refaire éventuellement, c'est là on avait les 10 ans de ma boîte, enfin de Tuvalu, et du coup, bon bah très clairement si je voulais rentrer en train c'était 22h13, sauf que c'était une belle fête avec plein de gens intéressants avec qui parler, donc à un moment donné je me suis dit bon bah on s'en fout, je rentre en vélo, et du coup bah, je suis rentré à 1h30 en vélo, bah ça m'a pris 1h30, bah c'est comme ça, enfin tu vois. En même temps, c'est pas plus dangereux la nuit parce que j'ai dû croiser franchement 7 ou 10 voitures, quoi, grand max. Je suis visible, j'ai des gilets jaunes, des machins. Bon, bah voilà, quoi, ça le fait. C'est un petit temps pour réfléchir aussi. C'est pas désagréable, quoi. Donc, honnêtement, je suis assez content de cette nouvelle habitude prise parce que à chaque fois que tu fais ce genre de truc, t'as une sorte de fierté plus qui résonne. Pendant et après, très clairement. Et puis, en plus, tu fais du sport, donc tu es en meilleure santé. Et puis...
Et là, ce que je trouve intéressant aussi dans l'expérience, enfin, c'est plus que de l'expérience, parce que je pense qu'on rentre dans des habitudes hein, pour nous. Mais Tim, il va régulièrement chez sa marraine. Jusqu'à maintenant, on faisait des moitiés de route. Voilà, nous, on faisait une moitié, Amy faisait une autre moitié. Ou alors, elle passait directement quand elle va en voiture. Mais là, Tim est parti en train. Du coup chez sa marraine qui habite à Préfaille, donc il a pris le train jusqu'à Pornic. Il se sent pas encore capable de changer de gare tout seul, donc Léni l'a accompagné jusqu'à Nantes faire le changement de train, et après il est allé tout seul de Nantes à Pornic, donc Léni l'a mis dans le train à Nantes et Émile l'a récupéré.
Ah oui, il est petit encore.
Voilà, il est petit, donc Émile l'a récupéré direct à la sortie. Et moi, je m'étais dit, non, mais il va pas avoir envie de faire ça. Tim, c'est un peu un flippé quand même sur beaucoup de trucs. Et en fait, il était hyper content. Il est parti avec son sac à dos en disant, bah, j'emmène mes affaires de cours pour pouvoir faire mes leçons dans le train. Enfin, voilà, je pense que l'expérience qu'on a eue au mois d'octobre, là où on a pris quand même en 2 jours peut-être 4 ou 5 fois le train, j'ai l'impression que ça l'a mis en confiance aussi de se dire, bah, en fait, voilà, prendre le train, c'est assez facile. Et moi, je suis contente qu'on leur transmette ça aussi parce que ça veut dire qu'on ne transmet plus le fait de, bah, en fait, je pars, je monte dans ma voiture. C'est même devenu une blague, en fait. Les enfants, ils disent, ah ouais, on prend la voiture.
Franchement, j'adore. Voilà. Non, franchement, j'adore. J'abonde dans ton sens, en fait, que ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont pigé pourquoi on fait ça. Donc, c'est pour ça que c'est compris, quoi, tu vois, c'est pas une souffrance pour eux de prendre le train, en plus il n'y a aucun problème avec le fait de prendre le train, mais le fait que éventuellement ça pourrait prendre plus de temps ou je sais pas quelle excuse on peut trouver sur le train, en tout cas eux ils ont tellement on a tellement discuté autour de ces sujets et ils savent à quel point c'est plus
ouais, puis...
c'est plus dur, c'est plus tenable en fait d'avoir ce mode de transport. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez des voitures, c'est pas grave, hein. Je suis pas en train de vous insulter ou je sais pas quoi, c'est juste qu'en effet, là très clairement, on le sait, si vous avez les chiffres du nombre de véhicules en France, il y en a 30 millions, ou quelque chose comme ça, 32 millions,
c'est une...
Et il y en a beaucoup trop déjà parce que à construire des voitures, c'est gigantesque en termes d'émissions, etc. Et puis après, bah, vous savez avec quoi ça roule, hein, ça roule pas avec des pélicans. Donc très clairement, c'est une cata. Et chacun fait comme il peut avec sa condition physique, avec sa condition géographique en fonction de si tu habites loin, etc. Chacun fait comme il peut avec le métier qu'il a et s'il a cette possibilité de changer aussi de métier éventuellement plus facilement, se rapprocher de son lieu de travail, etc. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas pour juger, c'est juste pour dire que ben, nous, on y arrive et que là, on est content. Et que du coup, c'est évidemment possible, quoi. On casse des croyances chez nous parce que. Bah, chez nous aussi, faire Nantes-Clisson, enfin Nantes-Jetigny en pleine nuit, etc., ça semblait pas complètement possible et sérieux, et en fait, c'est carrément cool. Pas plus fou en tout cas que prendre la voiture à cette heure-là. Enfin, c'est la même chose, tu peux croiser un mec bourré qui te rentre dedans de la même manière. Enfin, il n'y a aucun.
Moi, je trouve que ça change forcément la relation au temps. Ça veut dire que parfois, il faut anticiper un tout petit peu plus les choses. Mais comme on l'a vu, enfin, comme moi, quand j'ai enlevé le smartphone, forcément, quand tu as plus le système de navigation sur ton téléphone, bah, faut anticiper. Là, le train, c'est sûr, ça nécessite. Là, je vois mercredi, on a un rendez-vous au CHU pour Tim, pour ses dents. Et bah, ça veut dire qu'il faut anticiper que tu partes au train de 11h pour bien être là-bas à la bonne heure. Enfin voilà, ça demande un tout petit peu d'anticipation, mais à la limite, pas plus que d'anticiper que tu vas bouchonner dans Nantes pendant 20 minutes et que tu vas être bloqué pour trouver une place de parking. Donc voilà, c'est une relation de temps qui peut être un tout petit peu différente. Mais par contre, alors moi je suis allée en formation là, au Mans début novembre, enfin le 16 novembre, et en fait j'ai corrigé des copies, j'ai fait d'autres trucs dans le train, ça veut dire que en fait j'ai pas perdu mon temps en voiture et j'ai pu bosser pendant 4 heures, enfin 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Et au final, j'ai pas mis plus de temps que les filles qui sont allées en voiture et qui ont galéré avec les bouchons au final. Donc voilà, je trouve que.
Ça t'a coûté plus cher en ne prenant que le billet versus l'essence, mais une voiture, ça coûte beaucoup plus cher que juste le plein d'essence. Ça coûte le prix de l'achat, ça coûte le prix de l'entretien, ça coûte le prix de l'assurance, ça coûte tout ça. Et donc, c'est même quand on nous dit, oui, mais t'as vu le prix de la SNCF, bah, même là, c'est encore OK en fait, c'est encore à peu près pareil. Faisons le calcul en vrai, faisons le calcul, parce qu'une bagnole, ça coûte très cher.
Et si on vient sur le prix, alors nous on a des abonnements mensuels par exemple. Notre abonnement mensuel, alors le mien, il est un peu plus cher que le tien. Moi je crois que je suis à 75 euros le mois et toi tu dois
Moins
être à
60.
60. Et en fait, on a quand même la moitié qui est prise en charge par l'employeur. Donc en fait, notre transport à tous les deux avec Léni, donc 40 euros, allez, on va arrondir large, plus 30 euros pour Léni, ça fait 80 euros par mois. Non, j'ai dit une bêtise.
Bon, je sais pas,
40,
c'est
70,
l'ordre de
voilà.
grandeur, c'est ça,
L'ordre
quoi.
de grandeur, c'est ça. Ça fait que,
Un plein d'essence, ça coûte
ouais,
combien?
voilà. Si on devait tous les deux aller en voiture au boulot, ça nous coûterait plus cher. Moi, je vois là la formation. Bah, en fait, le train, il était pris en charge par la formation. Donc, au final, ça ne me coûte rien non plus. Enfin,
Il n'y a
voilà.
juste pas photo, en fait. Sur tous les tableaux, il n'y a pas photo. Donc,
Enfin, moi, la vraie question que je vois derrière, c'est aussi. Bah, si c'est pas possible en train, bah, c'est peut-être qu'en fait c'était pas possible, en fait c'était peut-être pas la bonne idée, c'était peut-être pas le truc à faire. Et voilà, moi je m'interroge beaucoup là-dessus aussi, quoi.
Bon, je vais aller assez rapide là-dessus, mais en tout cas, ce mois-ci, j'ai eu la chance d'aller à l'Open Source Experience à Paris, qui est un salon sur 2 jours. Et du coup, j'ai été frappé par autant de monde, du coup, de mon domaine, hein, très clairement, du monde du numérique, qui pensent différemment que les systèmes basés sur la croissance et puis sur le profit, et où ils réussissent à essayer de réfléchir sur la notion de commun, la notion de gouvernance partagée. Je ne m'attendais pas forcément à la gouvernance, à traiter de ces sujets-là. Je pensais. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, la notion aussi de. J'ai entendu parler de sujets qui m'intéressent particulièrement, notamment les SCIC, les sociétés coopératives à intérêt collectif. J'ai vu aussi, j'ai eu la chance d'assister aussi à une conférence organisée par Decidim, enfin, par Open Source Politics, en fait, qui est une des qui est un des acteurs qui fait partie de la gouvernance, qui gère le projet Décidim, qui est une plateforme de gouvernance participative que j'avais découvert il y a 2 ans quand on avait fait la liste participative à Jatigny, aux élections municipales. Et du coup, ça m'a reboosté à fond pour réorganiser quelque chose au niveau de la commune, pour réussir à interroger les gens au niveau de leur quartier. Et je suis sûr que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, même si on n'a pas gagné, en fait. C'est-à-dire que dans le but d'envisager de faire quelque chose dans 3 ans ensemble, de faire un programme pour une commune qui s'inscrit vraiment dans une démarche de transition, je pense que c'est obligatoire que les citoyens s'en saisissent. Et pas 30 citoyens, quoi. C'est vraiment que tous les citoyens qui peuvent être intéressés par cette approche de transition s'en mêlent, parce que après, ceux qui veulent pas changer de monde, c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant, et du coup ça m'a vraiment boosté. Et le deuxième événement auquel j'ai assisté ce mois-ci, c'était le forum des initiatives écologiques et sociétales organisé par le Collège des Transitions. Du coup, c'était en Vendée, là, c'était pas très loin. Enfin, j'ai été inspiré par pas mal d'intervenants, intervenantes qui parlaient notamment de projets sur le territoire dans le coin, hein, très clairement, sur comment ils réussissaient à faire des. Comment, en gros, ils réussissaient à se saisir des sujets d'alimentation, d'énergie, etc., au niveau citoyen ou alors communal, mais d'une autre manière, quoi, pour réussir à retrouver un peu de résilience autour de ces questions-là, un peu de souveraineté très, très locale, reprendre la main concrètement sur ces sujets, et très intéressant, quoi. Donc des tiers-lieux dans tous les sens, des communautés de communes qui essayent de penser à des manières de réinventer des zones commerciales et compagnie. Voilà. Un peu de bullshit de temps en temps avec des gens qui sont très fiers d'eux, et en fait, bon, c'est pas dingue. Mais par contre, pas mal de bonnes idées, notamment le football écologie. .fr, je crois, enfin .org, je sais plus. Vous tapez football écologie sur votre moteur de recherche, vous allez trouver. C'est toute une méthode pour essayer d'encourager les clubs de foot à moins faire de la merde. Notamment, il y a des chiffres comme ça qui font réfléchir. Il y a 3 millions de kilomètres par week-end qui sont parcourus par les joueurs qui vont jouer. Ils vont taper dans la balle. 3 millions. On s'arrête là. 3 millions de kilomètres. Voilà.
Et notre fils, il est dans ces 3 millions de kilomètres.
Et ouais, et on en avait déjà parlé lors de 1 ou 2 ou 3 podcasts, parce que ça faisait partie des sujets. Donc là, en tout cas, il y a une bribe de pistes de réflexion. Il y a notamment une fresque du foot écologique qui existe, notamment pour permettre de comprendre les enjeux du foot et pourquoi... Pourquoi il y a des choses à faire. Je ne l'ai pas faite, mais je me doute de quelques petits trucs qu'on a. Et c'est tout pour moi. Je te repasse la main, chère facilitatrice.
Alors moi, j'avais une dernière fierté quand même que j'avais notée. Donc le 16 novembre, là, je suis partie en formation. Donc ça, c'est dans le cadre du boulot. Et là, cette année, j'ai choisi de participer à la formation qui s'appelle Écologie et Développement Durable. Donc c'est sur 3 jours. J'ai fait une première journée. Il restera 2 journées en février. D'un côté, un petit peu de déception parce que j'ai pas senti la formatrice tout à fait au taquet sur les données en termes d'écologie. Je l'ai pas senti plus impliquée, plus militante que ça. En revanche, elle était beaucoup sur du pratico-pratique et qu'est-ce qu'on peut faire dans les établissements. J'ai trouvé ça un petit peu... la première journée était un petit peu terre-à-terre, c'est-à-dire trier ses déchets, éviter le gaspillage alimentaire. Enfin, voilà, beaucoup de choses que je pense qu'on fait déjà, notamment dans le lycée où je suis. Donc là, j'étais un petit peu déçue, mais il y a deux autres journées sur lesquelles j'attends beaucoup parce qu'il y a des contenus qui ont l'air, voilà, qui ont l'air top. Et puis on change d'intervenant aussi, donc ça sera peut-être un peu différent. Mais c'est toujours ce type de journée-là. Je trouve que c'est toujours intéressant dans le partage avec les autres, voilà, de voir comment sur d'autres lycées, des collèges. Enfin là, il y avait le collège et le lycée Saint-Louis qui étaient représentés à Saumur. Voilà, il y avait déjà, ça m'a permis de rediscuter un peu de Saumur et c'était trop cool de faire un petit retour en arrière. Et puis avec d'autres collègues, il y avait des collègues de Saint-Nazaire notamment qui étaient là aussi, des collègues du Mans. Et voilà, je trouve que l'échange et de se dire, enfin pour moi, ça va me permettre d'avoir cette légitimité aussi auprès de ma direction, de se dire bah ok, bah maintenant on y va et on peut vraiment lancer des trucs, on peut y aller, parce que déjà on fait déjà des choses, donc comment on les valorise et comment on va plus loin avec les élèves. Donc et voilà, et cet après-midi je regardais un reportage sur Pontchâteau où le collège de Pontchâteau est investi plus sur ces questions de développement durable, d'écologie, et qui faisait une marche pour le climat avec ses élèves qui s'avaient organisé. Donc je trouve ça, enfin voilà, je me dis que c'est possible et ça me donne envie d'aller vraiment plus loin là-dessus. Voilà, il y a mes collègues déjà qui ont évoqué l'idée d'un groupe de travail sur l'écologie, donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs, quoi. Et puis quand je vois les discussions, j'ai eu une discussion super intéressante vendredi là avec mes élèves, voilà, qui s'interrogent beaucoup. Hein, je sais plus comment je suis arrivée à parler du régime végétarien, mais voilà, je sens que ça les titille. Ils se posent des questions et ils ont demandé, voilà, ce qu'on travaille, des choses notamment sur le zéro déchet en accompagnement personnalisé. Donc je sais pas encore quel biais il va falloir que je trouve pour pouvoir aborder ces thèmes-là avec eux, mais je sens qu'il y a une motivation, une envie d'y aller. Donc voilà, tout ne rentre pas dans mon programme, mais j'ai l'avantage de travailler un programme en lien avec la santé, et bizarrement environnement et santé, c'est quand même pas trop difficile de faire le lien. Donc je pense que voilà, quand on travaille sur la canicule, là je travaille la canicule avec mes terminales sur la crise sanitaire, et bah clairement hein, le système enfin la canicule hein, est liée au réchauffement climatique, enfin en tout cas l'intensité des canicules et le fait qu'elles soient de plus en plus rapprochées. Donc je pense que j'ai quand même quelques pistes, voilà. Donc j'ai envie de creuser ça et de partir sur une dynamique d'établissement aussi, quoi. On passe sur les patinages, donc c'est parti, je te laisse la main.
Ouais, un petit patinage rapide, mon ordi est toujours HS et du coup, bah, communo, patine totale, j'ai réussi à bricoler quelques petits trucs, mais bref, très décevant. Donc c'est au point mort, je le laisse de côté le temps que je récupère mon ordi. Inch'Allah, je l'ai au mois de décembre et puis voilà. En tout cas, c'est pas trop grave, on laisse de côté ce truc. Deuxième facteur limitant, le plus important probablement, c'est, je vous ai parlé de quand je suis allé à l'Open Source Experience, et du coup je suis allé voir Simone le soir, parce que j'étais sur deux jours, en célibataire tout seul à Paris, et du coup je suis allé au ciné et je suis allé voir Simone. Donc allez le voir, franchement il prend au trip, et du coup mon facteur limitant derrière ça, c'est qu'il est beaucoup trop bien fait ce film, et du coup il m'a fait un torrent d'émotions, notamment par rapport au fait que ça se passe beaucoup, le film se passe beaucoup lors des camps de concentration, etc. Et parle d'une époque très sombre, très 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 sale, on connaît tous, hein. Mais je m'interroge en fait sur la raison de pourquoi je suis aussi... alors vous croyez probablement pas que je suis confiant sur l'avenir, hein, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai une grosse éco-anxiété, etc. Mais je m'attends pas en fait à ce qu'il y ait ce genre de choses qui puissent se reproduire, des camps de concentration, des guerres civiles ou des choses aussi dramatique que ça, j'arrive pas à me l'imaginer, à me dire que voilà, j'ai toujours la tête d'un enfant qui est né dans les années 90 où on lui a dit que jamais il y aurait la guerre en Europe et tout irait bien, on avait passé un cap sociétal, et en fait j'arrive pas à casser cette croyance là, à me dire mais si en fait là, en étant rationnel, en tout cas pendant ce film là. Et ça faisait quelques temps en fait que et je pense que c'est pour ça qu'il est arrivé à un moment donné où où je me posais déjà ces questions et il m'a remué très très fort. Et en fait, je me dis, bah, en fait, là, aujourd'hui, la société, elle est hyper divisée. On n'arrive pas à vivre ensemble. On a un fascisme, on a de la haine de partout. On sait qu'il y a des migrants, des migrations énormes qui vont arriver demain, etc., etc. On est hyper violent. Enfin, il n'y a rien qu'à voir sur comment... les gens se parlent sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Il y a une crise encore plus grosse que celle qu'il y avait dans les années 30, 1930. Là, la crise dont on parle, elle est planétaire, elle est gigantesque. Et même si on a atteint un niveau de vie en Europe, en tout cas, qui nous permet d'être calme aujourd'hui, de rien sentir, elle est là, quoi, et tout le monde le sait. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'angoisse là en ce moment, vraiment. C'est que j'ai vu des images là-dedans que je connaissais évidemment, mais qui étaient particulièrement très, très fortes et très bien faites. Après, difficile, ne le montrer pas à des enfants forcément, Simone, hein, très clairement. Donc voilà, comment espérer un avenir meilleur alors que beaucoup de voyants nous disent qu'il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être pisse demain.
Et puis, en même temps, enfin, moi, je ne vois pas comment ça peut se passer d'autre que par la violence, en fait. Enfin, si on prend que l'angle écologique, hein, même pas aller sur l'angle social, aujourd'hui, on a, enfin, pas moi à titre personnel, mais je pense que les écolos, on va faire un groupe, agissent quand même depuis des dizaines d'années maintenant. Hein, même si ça s'accélère et il y a des choses qui arrivent, au bout d'un moment, on se demande... Enfin, on peut être gentil, on peut faire des trucs qui ont... Voilà, à quel moment on va être entendu ? On le sera peut-être jamais, et donc ça va forcément devenir violence.
Surtout que là, on voit par rapport à l'écologie, etc., on commence à parler d'éco-terrorisme pour des gens qui jettent de la soupe sur un cadre en verre. Donc il n'y a aucun impact, aucun... etc. C'est juste pour interpeller sur le fait que... bon, bref, vous avez déjà compris, franchement... Les arguments, ils ont tous été dit. Et là, on commence à parler d'éco-terrorisme avec des gens qui se mettent en... qui prennent des risques pour leur vie. Du coup, c'est un peu comme Greta Thunberg, quand elle était à l'ONU, elle avait dit « Vous avez volé ma vie. Moi, j'ai 16 ans, je devrais être à l'école, etc. etc. » Ces militants qui vont faire de la garde à vue, qui vont peut-être faire de la prison, etc. Ils se font traiter d'éco-terroristes. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi l'étape d'après ? Qu'est-ce que ça veut dire un terroriste dans ce cas-là ?
Puis on nous parle beaucoup de liberté dans cette notion-là. C'est oui, bah Total, il a le droit de polluer à fond. Hein. C'est légal. Enfin, tout ce qu'il fait est légal. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, il a sa liberté. Et par contre, on n'a pas le droit, nous, dans notre liberté, de s'opposer au fait qu'on ne souhaite pas. Voilà, la liberté, elle va que dans un sens, elle va que dans le sens du capitalisme et de l'argent tout le temps. Donc c'est...
Ça va forcément se radicaliser dans les deux sens en plus.
C'est oui,
ça,
le dans les deux sens.
C'est que ça fait donc grossièrement depuis les années 70 où on sait que ça va péter dans les années 80-90, on savait politiquement qu'il fallait agir, etc. Donc avec des militants, avec des gens écolos qui commençaient à dire, à alerter gentiment, avec des infos, avec des chiffres, avec des faits, etc. Avec des scientifiques à l'appui. Dans les années 2000, ça a remis un petit coup de plus. Dans les années 2010, again. Là, on arrive dans les années 2020 avec... Enfin, on est dans les années 2020 avec un système à bout de souffle qui commence à péter de partout. Et du coup, il y a des gens qui deviennent des terroristes. Pas d'attentats encore qui ont été faits. Moi, s'il y a un attentat, je veux bien qu'on commence à reparler de ça, comme les suffragettes ont été obligées de faire, etc. On entend souvent cette anecdote-là que la plupart des grosses avancées ont été acquises avec des actions, avec un bras armé qui était en parallèle d'un mouvement plus modéré, entre guillemets. Là, pour l'instant, le bras armé, il n'existe pas dans sur le truc environnemental. Le bras armé environnemental, c'est les gens qui vont faire des blocages, c'est ça, sur la désobéissance civile. Enfin, on peut passer à autre chose, mais l'autre sujet, c'était, ça rejoint pas mal ça, hein, mais c'est l'hypocrisie générale au niveau du Qatar. Là, c'est la Coupe du Monde du Qatar, youhou, super. Il y a eu et il y a, je pense, beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur le fait que c'était pas bien, etc. Bah, évidemment que c'est pas bien, en fait. C'est entre 6, au moins 6 500 et voire 10 000. Amnesty dit qu'il y a probablement beaucoup de morts qui ont eu lieu sans qu'on soit capable de faire le lien entre le Qatar et entre la construction des stades, etc., et ces morts-là. Et on est sur un truc où, quand il y a un accident de je sais pas quoi, il y a une journée nationale de deuil parce que, oh là là, c'était 50 enfants qui sont morts, etc. Là, on parle de 6 500. Pas 50, 6 500. 6 500 personnes, des gens comme vous, comme moi, comme mes enfants, qui sont morts dans des conditions catastrophiques, comme des esclaves, parce qu'on sait que c'est des esclaves. Et je ne vous parle pas de l'impact environnemental, là, je parle que de l'impact humain, quoi. C'est-à-dire que même si ça avait été des super green, et ce n'est pas le cas, moi, perso, j'aurais boycotté de la même manière. Et là, on dit, oui, il ne faut pas, à la manière de Polanski, il faut séparer l'artiste de... Mais rien du tout, on ne sépare rien du tout. Là, le Qatar, ils ont fait des choix éclairés, il y a de la corruption depuis le début, on le sait depuis le début. Et là, on s'en fout, on allume TF1, beIN Sport, ce que vous voulez, et on mate la télé avec des pop-corn, on se gratte les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais là, on est sur un truc quand même... C'est les nazis qui organisent une Coupe du Monde, vous la regardez, vous faites quoi? Je dis vous... C'est pas vous particulièrement, désolé. Mais en tout cas, voilà, ça m'énerve.
Bon, le mien, il va avec. Hein. voilà. Moi, je l'ai placé, t'en avais d'autres ou pas?
Non.
Non. Moi, je l'ai placé entre le patinage et le Caire parce que je crois que. Voilà. Moi, j'ai noté hein, dans les patinages beaucoup de colère et de rancœur. Je pense que je sature vraiment d'entendre oui mais bah oui mais j'ai pas le temps de prendre le train, bah oui mais moi je oui bah là on avait de l'argent donc on organise un voyage en avion parce que bah voilà fallait bien le dépenser cet argent là voilà c'est en fait j'ai beaucoup de mal là, en ce moment, c'est très difficile pour moi avec le fait que les gens comprennent rien, qu'on est dans la politique de l'autruche, en fait oui, tout est notre vie est confortable et très agréable et on va surtout pas y toucher parce que bah nous on est bien et puis bah les autres ils ont qu'à crever, enfin les autres déjà les plus pauvres d'entre nous et puis les générations futures en fait on s'en tape.
Bon, ils disent pas ça mais
c'est non
ça
ils disent pas ça mais
en fait quand tu dis rien c'est ça que ça veut dire en fait.
Mais oui. Mais on est tous d'accord, c'est tous très, enfin on vit dans un confort qui fait qu'on n'a pas envie d'en bouger, c'est très simple. Et encore, nous on n'est pas sortis du confort, hein. On est loin. Enfin, je trouve qu'on a encore une vie très confortable, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pourtant on est les pires radicaux écolos du coin, mais on est encore dans une vie très confortable. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est vraiment de plus en plus compliqué à entendre que bah oui, le dimanche matin, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller acheter le pain. Bah oui, parce que j'ai pas 5 minutes à perdre en faisant du vélo. Enfin voilà, c'est de plus en plus difficile pour moi. Et je l'ai relié avec mon cœur parce que du coup, j'ai besoin de m'apaiser là-dessus parce qu'en fait, ça a une incidence sur ma famille, hein, le fait que je sois en colère tout le temps et négative et à ronchon et à râler, hein, comme je viens de le faire pendant 3 minutes. Et bah, je trouve qu'avec les enfants notamment, voilà, j'ai pas toujours une... Voilà, j'arrive pas toujours dans des bonnes dispositions positives. Et du coup, j'ai recommencé à écrire beaucoup. Alors ça aussi, c'est encore merci les fabuleuses. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Là, je me suis racheté un carnet qui est plus petit pour pouvoir écrire dans le train notamment. Et je suis retombée sur... un outil, alors je ne sais pas si vous savez, mais les fabuleuses, on est sur plusieurs années et à chaque année, en fait, on travaille des thématiques différentes. Et il y a 2 ans, on avait travaillé une thématique sur le pardon et je ne m'étais pas retrouvée du tout là-dedans. Je m'étais dit, bah non, moi, j'ai rien à pardonner. Enfin, voilà, j'ai eu une vie sympa, j'ai rencontré des gens sympas, enfin, tout va bien dans ma vie. Je me suis pas fait violer, enfin voilà, je n'ai pas eu gros trucs énormes, j'ai pas été maltraitée par mes parents, enfin tout va bien. Donc voilà, du coup je m'étais pas trop sentie concernée. Et là en fait j'ai eu l'envie de réimprimer les carnets, donc j'ai réimprimé les 4 carnets, j'ai commencé cette semaine à retravailler dessus. Et en fait j'ai bien aimé parce que, enfin j'ai bien aimé. Non, je pense que je suis qu'au début du travail, parce qu'il y a un gros chemin, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le care, parce que je pense que c'est sur le prendre soin de moi et m'apaiser. Mais voilà, la première phase du carnet, c'est le pardon est un cadeau à se faire à soi-même. Et je pense que là, j'ai besoin de pardonner aux autres, voilà, je sais pas, ce manque de déclic, ce déni, voilà, je sais pas comment on peut le nommer, mais j'ai besoin de pardonner pour moi pouvoir avancer et m'apaiser, parce que je sens que c'est trop, voilà, c'est trop compliqué, en tout cas, à vivre dans mon quotidien, donc j'ai vraiment besoin de m'apaiser. Donc
Est-ce que c'est pardonner aux autres ou je sais pas quoi? Enfin, je le ressens plus comme ce que tu m'avais expliqué, je le ressens plus comme un peu le côté accord Toltec où ça m'affecte.
Oui,
il
ne
faut
ça.
Pas que ça m'affecte, ouais. Quoi. C'est-à-dire ouais. que, bon, c'est de la merde, mais je prends du recul et je réussis à me protéger. Et voilà, ça ne veut pas dire... Enfin, moi, dans le côté, je pardonne aux autres. Ça veut dire que il y a aussi le côté, je comprends beaucoup, enfin, tu vois. Et moi, je trouve ça difficile de comprendre ce qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas, tu vois. Enfin, il ne s'agit pas de dire, non. Ça y est, je comprends, quoi. Ben, moi, pour pardonner, je dois comprendre. Je dois avoir de l'empathie qui monte et je dois. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il faut pour comprendre et pour réellement pardonner. Par contre, s'apaiser, prendre du recul, se protéger, ouais. complètement, quoi.
Bah, c'est plutôt ça l'idée hein, des carnets. C'est plutôt voilà, arriver à se protéger, arriver à s'apaiser et avancer voilà, avec ça. Et je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, mais ça me parlait vraiment bien. Voilà, c'est pas grave, je réécouterai ton podcast. ouais. Mais je suis au début, donc l'intérêt de ces carnets-là, c'est qu'on a des questions d'écriture, voilà, des sujets qui sont posés. Et voilà, j'ai fait que 2 pages hein, sur les 60 ou 70, mais déjà, j'ai l'impression d'avoir avancé un petit peu. Je vais poursuivre. Merci. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le care, parce que je pense que c'est important de prendre ce temps-là. J'ai la chance d'avoir 22 minutes de train le matin et 22 minutes de train le soir, 3 fois par semaine. Voilà, ça me laisse du temps d'écriture. Aujourd'hui, je lisais beaucoup. Je pense que j'ai envie de passer dans une phase un peu plus active. Voilà, sortir des rêves, des romans voilà, qui sont très romancés, c'est sympa, mais aller aussi vers la vraie vie. Et parce que j'ai vraiment besoin de m'apaiser, en fait. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui. Voilà, c'était pour mon care qui va avec le patinage. Mais du coup, nous sommes passés dans les cares, donc c'est reparti pour ton care, Lémi.
Ouais. Du coup, moi quand même, Simone, ça m'a chamboulé vraiment. J'ai peut-être fait ma 2e crise d'anxiété vraiment forte en sortant à Paris. J'étais vraiment sanglot. C'est comme ça. Et j'avais pas ma femme pour me serrer dans ses bras. Le deuxième truc, c'est que j'ai mon ordi pété, je me suis couché vachement plus tôt. Donc, mine de rien, je suis plus reposé aussi ce mois-ci. Donc, c'est pas si mal que ça, quand même. Et moi, il y a un truc dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais un truc qui ce mois-ci m'a fait pas mal de bien aussi, c'est qu'on a plusieurs personnes. Je crois qu'il y en a de plus en plus de personnes qui nous ont dit qu'ils avançaient grâce à nous, grâce à ce podcast aussi probablement, qui nous ont dit qu'ils se sentaient plus ou moins bien avec ça. Et du coup, c'est cool s'ils réussissent à se sentir bien, qu'ils réussissent à comprendre que ça y est, ils sont en chemin et voilà. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de réussir à se dire... à avoir ce fameux déclic et puis se dire ça y est, j'y vais, voilà, je vais pas attendre 15 ans pour bouger, j'ai le bon âge, c'est maintenant que je dois le faire. Et voilà, et du coup je ressens qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous, en tout cas de plus en plus, et ça c'est chouette, c'est pas que grâce à nous évidemment, mais en tout cas moi ça m'aide en tout cas à me dire vas-y, on a fait le bon choix de rester par ici, rester dans la société moderne, même si on n'en veut plus, et à se dire que le fait de faire un podcast qui consomme un peu d'énergie, etc., qui nous prend du temps et etc. Ça fait que bah, y a des gens qui comprennent, que ça inspire et qu'on y va ensemble, quoi. Il y a plusieurs demandes d'idées pour avancer, il y a plusieurs demandes de lecture, il y a plusieurs demandes de. Voilà, donc il y a un vrai intérêt et ça, quand on agit, on a besoin de savoir que ça, y a des conséquences positives et donc merci à vous de nous dire ça. Il y a le fait que plusieurs amis sont venus aussi passer des week-ends chez nous. Et voilà, c'est hyper intéressant. Eux, ils sont avancés aussi sur d'autres sujets aussi, parfois plus que nous. Nous, parfois d'autres sujets un peu plus. Et puis, l'idée, c'est de sentir que là, on commence à s'auto-inspirer. Les gens qui nous ont écrit des messages nous inspirent aussi, en fait. C'est ça le truc. Et donc, ça, c'est chouette, quoi. De sentir que là, on commence à rentrer dans un truc un peu efficace, en fait. Mais. Je ne sais pas si on continuera le podcast l'année prochaine ou pas, ou si on fera un autre mode d'action, mais on verra ça le mois prochain.
Ouais, bah moi je rebondis sur le. Enfin, du coup, on a passé 2 week-ends avec Hélène et Thibault, et puis après avec Pierre et Noémie, là c'était super chouette voilà, de pouvoir avoir déjà du temps long, parce qu'à chaque fois on a eu un week-end entier, donc on partage des choses, de voir que nos enfants ils partageaient aussi des choses, et puis on a souvent parler d'écran hein, sur nos podcasts, mais là, notamment avec Pierre et Noémie, parce que Hélène et Thibault, on le savait déjà qu'il n'y avait pas d'écran, donc on n'a pas été trop surpris, mais voilà, Pierre et Noémie qui ont quand même des enfants qui sont un peu plus vieux que les nôtres, hein, parce que leur aîné est déjà en quatrième ou troisième, quatrième, je crois. Voilà, et de voir qu'il n'y avait pas d'écran chez eux, toujours pas, et on a passé. Il y avait pourtant, bah, ils ont 4 enfants, donc ça faisait 9 enfants les 2 week-ends là.
C'était sympa.
Et on a passé des moments où les enfants étaient tous assis sur le canapé en train de lire. Des moments, ils ont fait des super jeux de société ensemble. Enfin, voilà, je trouve que ça a permis aussi pour nos enfants de se dire, bah ouais, il y en a d'autres en fait qui vivent sans ces écrans et qui ont l'air de le vivre bien.
Ouais, on n'est pas chelou, quoi.
Voilà, on n'est pas chelou enfin, voilà, ils ont fait une super bataille navale là. Tous les grands le deuxième week-end. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment des moments importants et je pense qu'ils ne se connaissaient pas hein, parce que c'est Pierre, moi c'est un copain des scouts avec qui je suis partie en formation plusieurs fois. C'était la première fois qu'on se faisait un week-end en famille dans le privé, en fait en dehors du scoutisme. Et nos enfants donc ne se connaissent pas, ne s'étaient jamais vus et voilà, c'était chouette de voir comment ils ont matché. Et de s'entendre voilà, de s'entendre bien et de se dire bah, on peut avoir 8 ou 9 enfants dans la baraque et ça le fait. Ça se fait.
En tout cas, j'ai pas l'impression que nos enfants se sentent stigmatisés
Non,
ou
mais c'est
un peu
que.
chelous, comme tu disais. Mais c'est vrai, c'est important, je pense. Mais tu vois, moi, par exemple, bah, pour Tim, en tout cas, je le sens hyper bien intégré avec les autres. Hyper à l'aise, hyper confiant, et il est capable de porter des choses que moi je suis moins capable. C'est-à-dire, j'ai toujours un a priori une sensation qu'on va me juger en mode écolo et tout, et en fait, lui, rien à foutre, ça y est, il est végé, ça fait plusieurs temps. Il est capable de dire des trucs franco aux gens en direct. Moi, je suis obligé de faire un podcast pour ça. Mais je trouve ça cool, quoi. Enfin, tu vois, et il est hyper populaire et il fait avancer vachement, en fait. Je pense que.
Bah, là, ce soir, Tim, il a un anniversaire chez un copain. Et donc, quand son copain l'a invité, donc c'était, je crois, c'était burger qui était prévu ou hot dog, je sais pas. Et donc, il a dit, bah oui, mais moi, je mange pas de viande, donc je pourrais pas manger comme vous. Et donc, je crois que le papa de Valentin est allé chercher des saucisses végétariennes, donc comme quoi, voilà, enfin, qui permettait, je trouve ça chouette qu'il l'ait
Ouais.
verbalisé, voilà, que ça soit très clair pour lui. Et puis, Kéo, qui est peut-être, qui a moins de facilité, je pense, dans le social, là, c'était rigolo parce qu'il a fait des gâteaux encore, il fait des gâteaux à peu près tous les mercredis pour emmener, parce que comme on ne souhaite pas produire de déchets, nous n'achetons pas
BN.
de BN et autres, voilà, je ne veux pas faire de la marque, enfin, de la pub pour BN, mais voilà, voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gâteaux, c'est parce qu'on n'aime pas le plastique qui est autour des gâteaux. Et donc, du coup, Kéo était très frustré en début d'année parce que les copains amenaient des goûters et lui, il n'avait pas de goûter. Donc, on lui a proposé de faire ses goûters. Donc, le mercredi, il fait ses goûters pour pour emmener au collège. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait des copains qui étaient ses goûteurs. Donc, en fait, quand il ramène des goûters, en fait, ça plaît aux autres et il teste des trucs. Enfin,
il devient populaire grâce à ça, quoi.
Ouais,
c'est trop bon.
C'est l'inverse qui se produit de ce qu'on avait imaginé. Mais voilà, moi en tout cas, ce week-end avec Pierre et même avec Hélène et Thibault, mais je trouve que ça m'a fait. Enfin, ça m'a ressourcé.
Je pense que les normes sociales changent aussi en fait. C'est-à-dire que nous, à notre époque, être écolo, c'était chelou vraiment. Et du coup, on a cette peur-là. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, eux, c'est carrément logique. Il y a la jeunesse climat, etc. Donc c'est complètement possible. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de végétariens. Il n'y en avait pas à notre époque des végétariens à cet âge-là, etc. Qu'on fait le choix de se dire bah non, j'ai pas envie de tuer les animaux. Ou alors que ce soit sur le côté environnement. Moi, ce que tu m'avais raconté sur ta classe où t'es jeune, etc., ils étaient vachement intéressés par végétarisme, mais aussi tous tes engagements, que t'avais pas de frigo, que vous avez discuté de ça, etc. Putain, mais c'est trop bien, quoi. Parce qu'à notre époque, c'était Baudet quand le gars, il a pas la télé. Et c'est un amiche, quoi. Tu vois. Alors que les jeunes... alors peut-être pas tous, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a qui se foutent de la gueule des gens tout le temps, et puis voilà. En tout cas, les jeunes qu'on côtoie aujourd'hui, bah, c'est hyper chouette, quoi. C'est encourageant en tout cas. Tu vois. J'ai pas des messages d'espoir tous les jours, mais en tout cas, là-dessus, je trouve ça assez chouette, quoi. C'est pas le cadre social, c'est pas les normes sociales qu'on avait nous, quoi. Donc,
ça, c'est plutôt cool. Je finis par mon dernier care, c'est ma dernière. Dernier care, bah, ça revient à celui que je disais tout à l'heure, l'écriture. Moi, j'ai repris à beaucoup écrire là, donc je remplis des carnets que Lenny dira à ma mort, en fait. Peut-être que nos enfants hériteront de tous ces carnets que je stocke dans une très belle malle hein, que j'ai recustomisée et tout ça. Je pourrais venir lire. À ma mort. Non, mais en fait, ces carnets ne sont pas destinés vraiment à être lus. Hein. Je pourrais très bien les brûler. Je les garde parce que je me dis que peut-être un jour je serai contente de les relire. Mais j'écris pas que des choses fun dedans. J'écris aussi des choses quand la journée a été difficile avec les enfants. Mais je trouve que ça m'aide. L'écriture est importante. Et là, j'avais arrêté. J'avais beaucoup écrit cet été. J'avais beaucoup moins écrit là en septembre-octobre. Et en fait, quand j'arrête, je trouve qu'il me manque un truc. C'est un peu mon psy, quoi. Ça coûte moins cher, hein, un carnet, c'est à peu près 20 € pour un an et demi d'écriture. Donc ça reste très abordable. Bon, allez.
Les objectifs.
Nos objectifs. C'est parti pour les objectifs du mois de décembre 2022, le dernier podcast sur lequel nous nous sommes engagés.
Bon, déjà, celui-là, il est long, mais du coup, l'autre, il sera peut-être un peu plus long parce qu'il y aura le bilan de l'année, je pense qu'on fera. Donc, ça va être un peu ça aussi. L'objectif, ça va être de préparer ce dernier podcast un peu différent et organiser le conseil d'administration de Jetting et Collectif pour relancer le collectif avec des nouvelles règles, avec un noyau dur, avec des exigences plus fortes. On n'est pas, si on ne peut pas s'engager, on se désengage. Mais au moins, on sait combien on est et on n'est pas en train de balancer des idées folles et puis qu'au final, tu es tout seul à la porte. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier projet que j'ai. Et puis le deuxième, c'est réussir à organiser un week-end en amoureux avec Marion, un week-end, enfin en tout cas 2 jours, pendant les vacances d'hiver, parce que cet été on devait le faire, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Et là, du coup, on sent qu'on a quand même le besoin d'avoir un petit temps tout seul. On l'avait fait il y a 2 ans déjà.
Ouais, 2 ans.
2 ans.
2020.
Et il n'y en a pas eu depuis, quoi. Donc c'est hyper cool de pouvoir ne pas s'occuper des autres, de s'occuper de l'autre. Et puis voilà, sauf que bah, du coup on a 5 enfants, donc
si vous en voulez un.
Ouais, si vous en voulez un, voilà. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous tente de nous filer un coup de main là-dessus. Carrément, on est preneur. Ce serait au niveau de la dernière semaine, quoi, de décembre, entre Noël et le 1er. Donc voili voilou. Et toi, est-ce que tu as des objectifs?
Bah oui, forcément. Au mois de décembre, donc il y a donc 2 semaines. À peu près classique, deux semaines et demie classique, et puis il y a après 2 semaines de vacances scolaires, donc c'est plus dense, on va dire, hein, presque je me repose un peu plus au boulot. faut pas que mon directeur entende ça. Voilà, j'ai mis un objectif que je n'ai pas du tout abouti là au mois de novembre sur les fiches dont on vous parlait là, d'arriver à créer une autre façon de témoigner. Je pense qu'en fait j'ai été bloquée par le fait que pour l'instant il n'y a pas de structure à cette fiche. Enfin, il n'y a pas, à part une idée globale de ce que ça pourrait donner, il n'y a pas vraiment d'arrêt au poisson. Pour des végétariens, c'est un peu embêtant. Voilà, mais je pense que j'aimerais bien prendre le temps avec Léni notamment, parce que je me sens un peu... Enfin, j'y arrive pas toute seule, en tout cas, encore. Brainstormer, voir quels sont les critères, les items qu'on voudrait mettre dans la fiche. Donc, pas forcément produire une fiche, mais en tout cas, avancer sur l'idée et se fixer les objectifs pour l'année à venir sur ça. Et puis, moi, je mets en priorité aussi les temps de qualité avec les enfants, avec Léni, sur cette période de Noël. On a pas mal réinventé Noël déjà l'année dernière. L'idée, c'est de poursuivre voilà, cet investissement basé plutôt sur de l'expérience et du temps ensemble. Voilà, c'est intéressant, c'est rigolo. On est tombé à la bibliothèque. Alors, pas fait exprès, hein, mais bon, voilà, on pense que nos bibliothécaires sont un peu écolos quand même sur les bords. On les connaît. mais on est tombé sur un livre super. Alors, je sais pas comment il s'appelle, il est là. Les Couses. Cadeaux par milliers et rayés. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Fanny Joly et Églantine Sédément. Voilà, qu'ont écrit ce petit livre pour les enfants. Et en fait, c'est rigolo parce que les Couses, ils débarquent chez leur mamouche et ils écrivent au Père Noël, hein, parce que c'est la période de Noël. Et puis le Père Noël leur répond que cette année, pour ne pas épuiser les ressources de la planète et pour ne pas épuiser son dos, il ne livrera qu'un seul cadeau par enfant.
Paf.
Et paf. Donc, il demande à chaque enfant de choisir le cadeau. Le seul, l'unique qu'il recevra. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre de truc. D'habitude, c'est beaucoup plus consumériste. On ne l'a pas fait exprès, on l'a pris par hasard. C'est les enfants qui l'ont choisi et ils l'ont ramené à la maison. Et voilà. Et du coup, ça m'amène à se réinventer Noël. Du coup, ils ont pu percevoir qu'il n'y avait pas que nous qui étions dans cette... voilà. Donc voilà, du temps pour vivre ensemble, des temps de qualité. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a explosé le tamis. Voilà, désolée. Donc pour la fin de ce podcast, on va vous laisser en compagnie de Virginie Resson-Victor qui va vous parler de son expérience autour du déni et du déclic. Et voilà, moi ça m'a un peu chamboulée. On pense bien à vous et merci de nous écouter jusque-là.
À la prochaine.
Salut.
C'était le 27 décembre 2016. Avec ma famille, mon mari, mes enfants, nous étions installés dans un gîte au milieu des vignes dans le sud de la France. Et ce jour-là, le ciel était juste magnifique. Le futur était radieux. Tellement radieux qu'avec mon mari, on avait commencé la journée par faire des projets. Parce qu'on avait envie de relancer les dés. On avait envie de recommencer notre vie, autre chose, ailleurs. On en avait même parlé avec mon frère et ma sœur qui étaient là, qui étaient venus pour prendre le café. Et puis on était allés se promener avec les enfants. On s'était arrêté dans ce square où il y avait 3 cadements. Et on s'était assis avec mon mari, on s'était assis sur un banc et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais posé ma tête sur ses genoux. Et je crois bien qu'à ce moment-là, le temps s'est arrêté. Vous savez, c'est un de ces moments parfaits. Un moment où il ne faut rien changer, où tout est là. Et puis on est rentré, on a ramené les enfants à la maison. On les a fait manger. Le soir, quand même, on est ressorti. La nuit était froide, mais elle était très très belle. Et alors, on a voulu montrer les étoiles aux enfants. On a voulu leur montrer la grande ours, l'étoile polaire. Et je me souviens de mon mari qui portait ma fille, notre fille, de 4 ans dans les bras. Il était fier et il était heureux. On y était rentrés, on les avait couchés. Et puis après, on avait appelé un ami médecin, parce que depuis quelque temps, mon mari toussait beaucoup, s'essoufflait. Ça le gênait beaucoup, ça nous gênait beaucoup. Et le traitement ne faisait plus effet. Le traitement qu'il prenait à l'époque ne faisait plus effet. Et donc avec cet ami médecin, on avait décidé qu'en rentrant à Paris, on allait commencer autre chose, parce qu'il fallait faire quelque chose, c'était plus possible. Et puis on est allé se coucher, séparément, pour pas que les quintes de toux de mon mari m'empêchent de dormir. Donc on avait fait chambre à part. Le lendemain matin, même lumière. Les enfants sont réveillés très tôt. Ils m'ont pris mon téléphone mobile et ils sont en train de regarder un dessin animé sur mon téléphone. Et du coup, je n'ai pas vu le SMS qu'à 8h12 exactement, mon mari m'a écrit, m'a envoyé, en me demandant de le rejoindre. En réalité, moi, je crois qu'il est endormi, je crois qu'il dort encore, donc je vais faire le café, je vais donner à manger au chien. Et c'est quelques minutes plus tard que mon fils cadet vient me voir dans la cuisine et me dit « Maman, je crois que papa est mort ». Je ne le crois pas, évidemment, je ne comprends pas, et du coup, je vais dans la chambre où se trouvait mon mari, je vais pour le réveiller, et là, je vois qu'il ne respire plus. J'appelle les secours, et de toutes mes forces, surtout, de toutes mes forces, toutes les forces du désespoir, j'essaye de le réanimer, longtemps. Mais au fond de moi, je sais déjà qu'il est trop tard. Il est 8h25, et mon mari est mort. Il n'a fallu que 13 minutes pour que le monde s'effondre, pour que je perde tout. L'amour de ma vie, parce que c'était une histoire d'amour qui n'était pas terminée. Le père de mes enfants. J'ai perdu mon confident, mon meilleur ami, mon compagnon, mon partenaire intellectuel, mon partenaire professionnel, parce qu'on travaillait ensemble. J'ai perdu l'essentiel des revenus qui nous faisaient vivre aussi. Puis j'ai perdu nos projets. J'ai perdu nos désirs partagés, nos voyages. J'ai perdu notre futur. Je crois même que j'ai perdu le futur. Parce qu'à ce moment-là, l'idée même de continuer à vivre sans lui est parfaitement insupportable. Alors la seule chose à laquelle je pense, la seule chose à laquelle on pense, on s'accroche, c'est de revenir en arrière. C'est ces derniers moments qu'on veut revivre pour avoir une deuxième chance. Parce que cette fois, je le verrai le SMS, c'est parce que cette fois, j'arriverai à le sauver. Sauf qu'on ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Cette pensée, ce que je partage avec vous, ça m'habite tous les jours. Tous les jours, je pense à ça. Et si je partage avec vous ce soir, et publiquement pour la première fois, c'est parce que depuis quelques semaines, j'ai la conviction, j'ai le sentiment que vous et moi, nous sommes en train d'écrire exactement la même histoire. Quand je dis vous et moi, en fait, je pense aux personnes, je fais référence aux personnes qui sont nées dans la seconde moitié du XXe siècle. Une génération qui vit une époque extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que, comme vous le savez, jamais le monde n'a été aussi riche qu'aujourd'hui. Jamais en Europe, par exemple, nous n'avons été aussi nombreux à vivre aussi bien et aussi longtemps. À avoir accès à l'éducation, aux études supérieures, aux soins, à la santé, aux loisirs, à la culture, au droit de vote, pour les femmes aussi. À vivre une période aussi longue, une période de paix aussi longue. Jamais auparavant en Europe, personne n'avait connu de période de paix aussi longue que celle que nous connaissons. Et puis aussi à gagner autant en travaillant aussi peu. En fait, vous le savez. Vous le savez et tout le monde le sait, parce que même si de temps en temps on entend dire que c'était quand même mieux avant, hein. Mais en réalité, personne ne veut faire marche arrière. Personne n'a envie de retourner avant. Personne n'a envie de donner son téléphone portable, son accès à Internet, ses vacances et ses voyages pour aller vivre dans les années 50 ou dans les années 60. Non, on est très bien. On est très bien là. On est très bien entre nous. Regardez. On est tellement bien que le jour où on reçoit un SMS qui nous dit que tout ça pourrait s'arrêter bientôt si on ne réagit pas, eh bien on ne l'écoute pas, on ne le lit pas, on n'en tient pas compte. Parce qu'en réalité, on ne veut pas savoir. Et on ne veut pas y croire. Alors on laisse ce SMS de côté. Et pourtant, je vous assure, vous et moi, on a tous reçu ce SMS, le 8 octobre dernier. C'est le GIEC qui nous l'a envoyé. Dans ce SMS, il y avait marqué qu'à ce stade du réchauffement climatique, si on voulait éviter le chaos planétaire, il était important que nous agissions, il était essentiel plus exactement, que nous agissions maintenant, de toute urgence et massivement. Maintenant, parce que si on veut contenir la température à un seuil qui soit humainement supportable et économiquement viable, il ne nous reste plus que 12 ans pour diminuer, pour diviser par deux les émissions de carbone et 30 ans pour atteindre la neutralité carbone. 30 ans. Dans 30 ans, on sera encore là. Et c'est tellement proche qu'évidemment, du coup, il faut agir massivement. D'autant plus massivement que le GIEC nous explique aussi que même si on plantait des milliards d'arbres, même si la technologie nous permettait de pomper le CO2 dans l'atmosphère, eh bien malgré ça, ça ne suffirait pas, parce qu'on n'a plus assez de temps. Le seul moyen, dit le GIEC, le seul moyen que nous ayons encore de sauver la situation, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et du carbone. Et les solutions, on les connaît. Elles sont simples en réalité. À votre échelle, à la mienne, c'est arrêter de manger de la viande, ou en tout cas en manger très peu. C'est circuler un peu moins, voire beaucoup moins en voiture, préférer les mobilités douces, le vélo, la trottinette, les transports en commun. C'est vivre local, utiliser les circuits courts, manger bio. Et puis c'est essayer d'arrêter, enfin c'est pas essayer, c'est réussir. C'est arrêter de prendre l'avion, sauf quand c'est vraiment indispensable. Ces mesures, on les connaît, vous les connaissez, on nous l'a suffisamment dit. On le connaît, on le sait, et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est très bien comme ça, on n'est pas prêt. On n'est tout simplement pas prêt, on n'a pas envie. Et puis après tout, c'est compliqué quand même. À la limite, si, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on trie nos déchets. On change nos ampoules pour qu'elles consomment moins d'énergie. On a arrêté de prendre des sacs en plastique au supermarché. Donc tout ça, on peut le faire. Et puis, oui, non, il y a une autre chose qu'on fait aussi maintenant. C'est qu'on donne de l'argent à des associations pour qu'elles plantent des arbres. Comme ça, ça peut compenser le carbone qu'on a envie de continuer à émettre. Mais de là à se priver d'un poulet grillé ou d'un steak au barbecue avec des copains, non. De là à passer 45 minutes, matin et soir, dans un TER bondé, surchauffé, avec deux changements et 10 minutes de marche, alors qu'on peut passer le même temps, et même un peu plus s'il le faut, dans une voiture climatisée avec la musique, la radio et son téléphone portable, non, on n'est pas, non. On n'est pas prêt. Et puis en plus, quand on y réfléchit, renoncer à un week-end en Grèce, parce qu'il faudrait prendre l'avion, il ne faut pas prendre l'avion, ben non. Non, surtout quand les compagnies low cost nous permettent de faire des vols très bon marché, d'aller passer un très bon week-end pour un prix très faible. Donc on n'est pas prêt. Puis d'ailleurs, est-ce que ça change vraiment quelque chose tout ça? Est-ce que vraiment si on arrête de prendre l'avion, ça change quelque chose? Après tout, pourquoi en plus on s'arrêterait de manger de la viande si les Américains continuent d'en manger? Pourquoi est-ce qu'on arrêterait de rouler en voiture si tous les Indiens et tous les Chinois achètent une voiture? Et puis pourquoi est-ce qu'on priverait nos enfants de quoi que ce soit si ailleurs dans le monde, d'autres femmes font 4 ou 5 enfants, continuent de faire 4 ou 5 enfants en moyenne? Non, moi si je fais un effort, si vous faites un effort, on est d'accord, c'est parce qu'on veut que c'est un impact. On veut en tirer un bénéfice, nous-mêmes, pour nos enfants. Alors là, c'est pas gagné. Mon métier, de métier, je suis géopolitologue et prospectiviste. Prospectiviste, ça veut dire que je dois réfléchir au futur. Non pas pour le dire, parce que je n'ai aucune idée de ce que le futur sera, mais je dois réfléchir aux moyens dont on dispose pour justement façonner le futur, pour aller vers les meilleurs scénarios possibles et éviter le pire. Et c'est justement parce que c'est mon métier que je peux vous dire qu'en réalité, sans attendre les autres, nous pouvons avoir un impact, et un impact majeur. Est-ce que vous savez, par exemple, que si l'humanité adoptait notre régime alimentaire, à nous, Européens, si on mangeait tous autant de viande sur la planète, eh bien, aujourd'hui, avec la production agricole actuelle, on ne pourrait nourrir que 4 milliards d'habitants. Nous sommes 7 milliards et demi, hein, sur la planète, un peu plus. On ne pourrait nourrir que 4 milliards. Ça veut dire qu'il faudrait laisser 3 milliards et demi de personnes mourir de faim? Non. Alors ça veut dire qu'il faudrait doubler la production agricole. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut déboiser encore massivement. Et puis il faut continuer à utiliser des engrais les plus efficaces possibles pour augmenter la productivité, les pesticides, les herbicides. En gros, il faut accélérer le changement climatique. Alors que si, au contraire, l'ensemble de la population mondiale, et là je pense en réalité surtout aux Européens, aux Américains, si l'ensemble de la population mondiale adopte le régime alimentaire du Bhoutan, vous savez, l'autre pays du bonheur. Au Bhoutan, on mange chaque année à peu près 4 kilos de viande, ce qui représente plus ou moins un steak tous les 10 jours. Eh bien, si on mangeait tous comme les Bhoutanais, aujourd'hui, on pourrait déjà nourrir 12 milliards d'habitants. 12 milliards. C'est-à-dire à peu près la population qu'on attend en 2100. Ça veut dire aussi qu'on n'a plus besoin d'augmenter la production agricole dès aujourd'hui. On en a assez, on en a même trop. Donc on peut tout de suite arrêter la déforestation. On peut tout de suite arrêter d'utiliser autant d'engrais, de pesticides, d'herbicides. Tout de suite. C'est fabuleux, non ? Je rappelle que l'agriculture, c'est un quart du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu l'impact qu'on a, et ce n'est pas les Bhoutanais, et ce n'est pas les Indiens qui sont végétariens qui peuvent avoir cet impact-là, ni les Japonais qui mangent du poisson, c'est nous. C'est la même chose pour les voitures, d'ailleurs. Je vous parlais des Indiens, je pense que vous savez que dans quelques années, ça sera le pays le plus peuplé au monde. Savez-vous combien il y a de voitures aujourd'hui en Inde, de voitures particulières en Inde ? 40 millions. Ça paraît beaucoup. Attendez, combien il y a de voitures en France ? 32 millions. Une voiture pour deux personnes. Une pour 32 en Inde. Alors vous croyez que c'est les Indiens qui peuvent faire la différence avec leur voiture ? Et pour reprendre l'histoire du contrôle des naissances, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un ou deux mois, on en parle énormément. On parle à nouveau beaucoup de surpopulation mondiale, de bombes démographiques. Pour évoquer, pour dire que, éventuellement, le contrôle des naissances, ça serait une solution à notre problème de climat. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement ? On est d'accord qu'on parle de l'Afrique, puisque, en gros, tous les pays développés et presque tous les pays émergents, en tout cas la Chine, le Brésil, la Thaïlande, la Tunisie, etc., tous ces pays-là ont déjà fini leur transition démographique. Ça veut dire que les femmes y font déjà peu d'enfants, moins de 2 par femme, en dessous du seuil de renouvellement des générations. Donc on ne peut plus changer grand-chose. Donc ça veut dire qu'il faut se concentrer sur les pays où on fait encore beaucoup d'enfants, et c'est-à-dire quelques pays d'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire aussi des pays où on ne mange pas de viande, ou très peu, et on ne roule pas en voiture. Aujourd'hui, si on supprimait l'Afrique subsaharienne de la carte, en gros, ça ne changerait rien à l'évolution du climat. Et puis, l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que même si aujourd'hui les femmes africaines décidaient toutes d'avoir moins d'enfants, à partir de maintenant, en réalité, la population africaine continuerait d'augmenter pendant plusieurs dizaines d'années. C'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. Parce qu'il faut au moins une génération pour infléchir cette progression démographique, pour infléchir la courbe de la population. C'est logique, le temps d'avoir des enfants. Une génération. Une génération, 25, 30 ans. Ah oui, mais on n'a plus ce temps-là. On n'a pas 30 ans. On a 12 ans pour diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. 12 ans, c'est rien. C'est rien. Allez, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 12 ans, c'est à peu près les 13 minutes pendant lesquelles ma vie a basculé. Les 13 minutes où j'ai tout perdu, où mon monde s'est effondré. Les 13 minutes qui ont décidé que mes enfants vivraient sans père. C'est rien. Je vous dis ça et en même temps, je suis bien persuadée que vous n'allez pas sortir de la salle en devenant végétarien et en allant vendre votre voiture. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Et si ça ne suffit pas, c'est parce qu'en fait, l'essentiel, ce n'est pas les chiffres que je viens de vous dire, même s'ils sont exacts. L'essentiel, c'est là. L'essentiel, c'est le déclic. C'est le déclencheur. C'est ce moment intime où on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit agir. Ça vient des tripes et c'est ce moment où on ressent qu'on n'a plus du tout le choix. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On sait, en 1940, qu'on doit désobéir et qu'on doit entrer dans la résistance. C'est ce moment-là. C'est ce moment où on apprend qu'on est enceinte et on sait qu'on doit arrêter de fumer. C'est ce moment où on lit le SMS du GIEC et on sait qu'il faut agir parce qu'il est insupportable de penser que dans 30 ans, vous et moi, nous serons face à nos enfants. Pensez bien à vos enfants, vous les avez en tête, vous les regarderez, je les regarderai, et on devra leur expliquer pourquoi 30 ans plus tôt, quand on avait encore les moyens et le temps de leur épargner le pire des futurs possibles, on a choisi de ne pas le faire. Ce matin-là, moi, ce temps, ce choix-là, je ne les avais pas. Mais vous, aujourd'hui, vous l'avez.